France Culture, l'art est le mouvement. Une collection d'Éric de Chasset.
Lorsqu'on parle d'art, on pense immédiatement à la peinture et à la sculpture, voire à la photographie. Et pas au reste, c'est-à-dire à des modes de création qui ont pour caractéristique d'être statiques et silencieux. Pourtant, les arts visuels ont depuis toujours été utilisés pour rendre compte de ce qu'ils n'étaient pas et ne sont devenus que depuis l'invention du cinéma et de l'enregistrement sonore à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire du mouvement accompagné ou non de son. Cela a lieu de la façon la plus évidente lorsque des artistes représentent le mouvement et trouvent pour ce faire des principes d'équivalence entre les transformations et les déplacements qu'ils observent ou imaginent et les moyens dont ils disposent. Mais ces équivalences ne se limitent pas à la représentation. Les recherches en neurosciences ont en effet montré que notre appréhension du réel mobilise des capacités kinesthésiques, c'est-à-dire des équivalences entre nos différents sens. La vue stimule ainsi dans notre cerveau, par empathie ou analogie, des zones associées au mouvement ou au son. Il n'y a donc pas besoin de représenter le mouvement pour le suggérer. Bien plus, certaines images sont faites explicitement pour produire littéralement du mouvement. Les artistes se sont rendus compte de ces possibilités bien avant que les scientifiques en donnent les raisons. Ils ont empli leurs images de mouvement et souvent les ont utilisées pour mettre en mouvement celles et ceux qui les regarderaient. En réunissant des artistes, des historiennes et historiens de l'art et de la danse, et des anthropologues, cette série de 4 émissions, L'art et le mouvement, vous invite, à votre tour, à rentrer dans la logique kinesthésique des images, à écouter pour voir, à voir des images pour comprendre comment elles bougent ou font bouger, tout en restant en elles-mêmes matériellement statiques. La danse, le mouvement des corps chorégraphiés ou spontanés, est depuis l'Antiquité, sinon la préhistoire, l'un des sujets favoris des artistes. Elle fut encore un des sujets majeurs des avant-gardes du début du XXe siècle, d'ailleurs associé à un renouvellement de la pratique chorégraphique. Des représentations de danseurs ou de danseuses sont ainsi présentes sur les vases grecs des VIe ou Ve siècle avant notre ère. Elles abondent également, et la représentation du mouvement en général, dans les tableaux et les sculptures des avant-gardes du XXe siècle, participant d'une recherche de l'œuvre d'art totale capable de convoquer dans des images destinées d'abord à être vues une représentation du mouvement qui a souvent débouché sur l'abstraction, une abstraction polysensorielle pour ainsi dire. Aujourd'hui, les artistes continuent à faire du mouvement dansé l'un de leurs sujets de prédilection. Pour en parler, j'ai invité deux historiennes de l'art, Cécile Colonna et Marcella Lista, et une artiste, Ulla von Brandenburg. Ulla von Brandenburg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une artiste allemande installée en France, près de Reims, depuis de nombreuses années. Vous avez été scénographe, êtes passée par le théâtre aussi. Et votre œuvre se caractérise par la diversité des supports et des médiums. Elle va d'installations à des films, à des aquarelles, à des peintures murales, à des collages, jusqu'à des performances. Bonjour Marcella Lista.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, conservatrice en chef au Musée national d'art moderne, au Centre Pompidou, pour la collection vidéo, son et nouveaux médias, et vous avez été, et vous continuez à être, commissaire de nombreuses expositions, dont pour ce qui nous concerne ici, son et lumière, une histoire du son dans l'art du XXe siècle au Centre Pompidou en 2004, une très grande exposition, aussi par la quantité, mais aussi par la qualité et la nouveauté du sujet. Corps étranger, danse, dessin, film au Louvre en 2006, ou encore A Different Way to Move, minimalisme New York 1960-1980, au Carré d'art à Nîmes en 2017. Vous vous intéressez au rapport entre musique et abstraction, au langage du corps, de la danse dans l'évolution des arts visuels et du discours sur l'art. Cécile Colonna, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice du patrimoine et vous avez longtemps travaillé au département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France, avant de rejoindre l'Institut national d'histoire de l'art comme conseillère scientifique pour le domaine de recherche histoire de l'art antique et de l'archéologie. Vous y dirigez plusieurs programmes de recherche sur les collections antiques au XIXe siècle et vous avez co-dirigé ces dernières années plusieurs ouvrages sur ces thématiques. Je vous propose de commencer notre discussion par une image. C'est une coupe en céramique peinte assez grande, puisqu'elle mesure 12,1 cm de haut, soyons précis, 37,7 cm de long et qu'elle a un diamètre de 30 cm. Sa longueur est particulièrement grande parce qu'elle a deux grandes anses. Elle a été créée à Athènes, on l'attribue à un peintre de céramique, entre la fin du VIe siècle et le début du Ve siècle avant notre ère, ce qu'on appelle l'archaïque grec récent. Et on peut voir cette coupe actuellement dans les salles récemment réouvertes du musée de la Bibliothèque nationale de France, la BNF, au sein de la collection du duc de Luynes. On y voit des figures rouges en train de danser et de jouer de la musique sur un fond noir. Au fond de la coupe, on voit une grande figure masculine qui est vêtue d'une longue robe, la tête renversée. Et cette tête renversée, elle est évidemment quelque chose qui frappe. Vous nous parlerez sans doute, Cécile Colonna, de la manière dont on peut l'interpréter. Cette figure tient dans sa main une lyre. Et je suppose que c'est Dionysos, puisqu'on appelle cette coupe traditionnellement le monde de Dionysos. Il y a également présent sur ce fond de coupe deux personnages plus petits autour de cette figure principale qui semblent faire des mouvements frénétiques en tenant dans leurs mains des sortes de castagnettes. J'utilise un terme qui est plus facile à reconnaître. Ces personnages sont pourvus de queues, ce qui indique que ce sont des satyres. Et sur les faces extérieures de la coupe, on ne peut en fait voir qu'une partie de ces faces extérieures dans la situation d'exposition. Si on va au musée de la BNF, on peut voir de nombreuses figures en train de danser, des hommes et des satyres encore, mais aussi des femmes qui forment une sorte de procession. Cécile Colonna, vous avez proposé que nous commencions cette discussion et cette émission par cet objet image. Sait-on ce que représentent exactement ces scènes et quel pouvait être l'usage d'un tel objet ?
Alors cette coupe, donc, qui est due au peintre de Brigos, un des principaux peintres de la fin de l'archaïsme à Athènes, est intéressante parce qu'elle a un programme effectivement centré autour de Dionysos et de son cortège de suivants, les satyres et les ménades. Dionysos est représenté deux fois sur la coupe, donc effectivement au centre du médaillon, et il est en train de jouer de la lyre et en train de chanter dans cette attitude caractéristique, effectivement avec la tête rejetée en arrière.
Ce qui veut dire qu'il y a une convention qui fait que quand on voit un personnage avec une tête rejetée en arrière dans une coupe archaïque, on sait qu'il est en train de chanter, pas en train de danser.
On sait qu'il est en train de chanter, puisque souvent il est représenté avec la lyre et que souvent, dans le cadre du banquet, on chantait en s'accompagnant de la lyre. Et sur certains vases, on a même des inscriptions qui partent de la bouche du chanteur et qui démarrent un chant de poésie lyrique, par exemple, au Apollon. Donc effectivement, c'est une convention de représentation du chant.
Alors, je vous ai interrompu, pardon, mais cet objet, ça n'est pas un tableau ou une peinture murale, c'est effectivement une coupe. À quoi ça sert ?
Alors, c'est une coupe qui sert à boire le vin. Et à Athènes, à cette époque-là, la consommation du vin se fait dans le cadre du banquet, le symposion, qui est donc une réunion des citoyens, qui sont donc des hommes adultes, après le repas, qui se réunissent pour boire ensemble le vin selon des conventions extrêmement ritualisées. Beaucoup des vases qui sont utilisés dans le banquet, que ce soit des vases à boire comme ici ou des vases pour mélanger le vin ou pour le préparer ou pour le servir, portent des images qui se rapportent souvent à cet univers du vin. Et ici, évidemment, cet univers dionysiaque, on voit tout de suite le rapport avec la consommation du vin, puisque Dionysos est le dieu du théâtre, mais aussi évidemment le dieu du vin dont il a fait don aux hommes de la vigne et il leur a appris la manière de le boire.
Et ces ménades qui dansent avec des satyres sur l'extérieur, c'est aussi des scènes très caractéristiques et très normées.
Alors Dionysos est représenté de multiples fois sur tous les types de vases et il est presque toujours entouré donc des satyres et des ménades. Alors des ménades qui sont représentées comme des femmes et leur statut d'ailleurs est toujours très discuté chez les spécialistes pour savoir si ce sont des nymphes ou des femmes qui sont en train de rendre un culte à Dionysos. Mais conventionnellement on les appelle les ménades ou les bacchantes, donc les ménades qui sont prises par la mania du dieu.
Donc vous parlez de culte. La danse qu'on voit n'est pas une danse de divertissement, ça n'est pas une danse de salon façon Athènes en Grèce archaïque.
Non, c'est une danse dans l'univers dionysiaque. Donc, on est dans l'univers du mythe. Et cette danse, c'est toujours une danse assez... l'univers de Dionysos, c'est toujours un univers très frénétique, très agité, avec la danse des Ménades et des Satyres qui sont toujours très contorsionnées. Et là, on voit les différentes Ménades avec le tournoiement des tuniques notamment et les gestes qu'elles font qui expriment en quelque sorte cette transe dionysiaque qui est amenée par... la consommation du vin, la musique et la danse.
Oula von Brandenburg, vous réagissez comment à ce type d'image en tant qu'artiste? Ça vous semble une image lointaine ou ces questions vous semblent des questions actuelles?
C'est complètement actuel parce qu'on danse toujours, on boit toujours du vin pour les mêmes raisons. Et moi, je trouve ça génial, cette idée du cercle et de la continuité du temps, en fait, parce qu'il y a déjà le temps là-dedans, et c'est ça aussi qui est important avec le mouvement ou la danse, c'est que c'est sur le temps et la vie.
On sait comment on buvait dans ces coupes. On a l'impression que si on met du vin au fond de cette coupe et qu'on essaye de le boire, on va en mettre partout. On a une idée de ça, c'est-à-dire de quel mouvement est induit par l'objet lui-même.
Oui, puisqu'on a des représentations aussi sur ces coupes de scènes de banquet. Et donc, on voit des banqueteurs qui sont en train de manipuler le même type de coupe et en train de boire ou en train de jouer avec aussi. Alors, on peut avoir des diamètres plus petits, mais cette coupe est assez caractéristique. La plupart des coupes font une trentaine de centimètres de diamètre. Donc, effectivement, pour nous, ça paraît très large. Et ça faisait partie aussi, en quelque sorte, de la sociabilité du banquet, de savoir... boire correctement dans ses coupes et malgré l'ivresse qui monte, de toujours pouvoir y boire. Et ce qui est caractéristique aussi, évidemment, le vin grec qu'on buvait à l'époque était un vin rouge assez épais. Et donc, dans ces vases, quand il était rempli de vin, on ne voyait pas l'image au fond du vase. Et c'est le banqueteur lui-même qui la voit, au fur et à mesure qu'il buvait dans cette coupe, qu'il levait donc devant ses yeux. Et il se retrouvait véritablement nez à nez avec l'image qui se dévoile. Et ici, l'image de Dionysos en train de chanter.
En train de chanter. Son corps est relativement statique, le corps de Dionysos.
Oui. Le plus souvent, Dionysos ne fait pas de grands mouvements. Il est souvent assez calme. Il est statique, comme ici, où il marche, comme à l'extérieur. Et c'est généralement tous les personnages autour de lui, par contre, qui bougent énormément et qui dansent.
C'est là où on peut dire qu'on est devant une image de culte.
Mais c'est certain qu'on peut tracer des parallèles entre ces images qui relèvent du domaine du mythe et les images cultuelles que l'on peut avoir aussi sur d'autres coupes où là on voit autour de l'effigie du dieu, qui peut d'ailleurs être parfois très statique, puisque parfois on a simplement un masque de Dionysos qui est attaché à un poteau ou à un arbre, et autour, les fidèles qui s'agitent autour de lui.
Marcella Lista, vous êtes spécialiste plutôt de l'art du XXe siècle, ou du tournant 19e, 20e siècle également. Ces images, elles ont une postérité dans la période qui vous intéresse?
Alors oui, une très grande postérité. En fait, ce qui a beaucoup intéressé les artistes du début du XXe siècle, c'est ce mélange justement entre la représentation d'une scène extatique, orgiaque, hein, il y a aussi une présence de l'animalité sur cette coupe, hein, on voit notamment ce fauve, ce léopard, et puis un travail de stylisation qui passe par des intervalles précis, un effet de rythme qui revient dans la répétition des plis, des robes, etc., qui font que cela permet aux artistes du début du XXe siècle de penser cette source qu'ils qualifient de primitive, en même temps comme l'aube d'un nouveau langage qui serait celui de la danse de l'avenir, que l'on imagine comme une danse épurée, stylisée, presque abstraite.
Quelles sont les personnes qui regardent ça de façon précise? Des gens comme Isadora Duncan ou...
Alors Isadora Duncan, Nijinsky ont étudié de très près les vases grecs pour justement fonder un nouveau langage du mouvement qui se dépouille en fait de tous les oripeaux du réalisme et de la pantomime qui sont propres au ballet romantique et qui perdurent à travers le 19e siècle pour aller vers soit l'idée d'une pantomime abstraite, soit l'idée d'une danse organique hein, qui cherche à renouveler avec les éléments de la nature comme le flux des vagues, de l'air, du vent, comme dans le cas d'Isadora Duncan, qui, comme vous le savez, a réintroduit l'idée de danser pieds nus, en contact avec le monde extérieur, avec les éléments. Et Nijinsky, de son côté, qui, avec un travail comme L'après-midi d'un faune, donc inspiré du poème de Mallarmé et de la musique, la composition de Debussy, va composer un ballet qui, à l'inverse, va rechercher le hiératisme des figures, créer une succession de tableaux qui sont d'ailleurs représentés par des photographies. Et c'est un point très intéressant, c'est que à cette époque-là, il y a déjà l'apparition du cinéma et que aussi bien Isadora Duncan que Nijinsky ne sont pas filmés, ils ne cherchent pas spécialement à conserver leur travail sous forme d'enregistrement filmique et croient plutôt que la photographie sera mieux à même de garder en mémoire leur chorégraphie.
On sait quel corpus de vase il regarde.
Alors dans le cas de Nijinsky, c'est très clair, c'est le musée du Louvre où l'emmène Diaghilev. La venue de Nijinsky à Paris, c'est 1912 avec donc la création du faune.
On peut voir des effets directs de certaines images vues sur des coupes grecques ou des vases grecs dans des chorégraphies spécifiques.
Alors tout à fait, puisque ce qui va inspirer Nijinsky, c'est à nouveau cette idée de hiératisme et aussi de bidimensionnalité de ses représentations, notamment dans le faune. Le faune, en fait, c'est une série de frises, pour ainsi dire, ornementales, qui se déroulent sur l'espace scénique comme sur autant de plans qui se succèdent, mais sans travailler sur une perspective tridimensionnelle, donc créer un espace un peu feuilleté, comme si on succédait comme ça des rideaux à plat. Donc ça, c'est typique de ce croisement des arts où on assume cette idée de transposer une inspiration plastique d'une époque très ancienne dans les possibilités de la scène contemporaine.
France Culture, l'art est le mouvement, une collection d'Éric de Chassay.
Nous venons d'entendre le premier hymne delphique à Apollon, qui a été composé par un Athénien du IIe siècle avant notre ère et qui est interprété, réinterprété, recomposé en 1978 à partir d'une plaque de marbre qui est conservée à Delphes par l'Atrium Musicae de Madrid sous la direction de Gregorio Paniagua. Il y a un texte d'ailleurs qui évoque quelque chose qu'on voit en partie sur la coupe dont nous avons parlé. Le texte évoque Phébus, escorté des illustres delphiennes qui s'acheminent vers les flots limpides de Castalia, tandis que l'essaim tout entier des artistes habitants de l'Attique chante la gloire d'Apollon, dieu célèbre par le chant de la cithare. On parlait de la question du hiérarchisme et de la représentation du mouvement de danse. Une chose qui me frappe sur les scènes extérieures de la coupe, c'est les plis des vêtements des ménades, des danseuses. Ulla von Brandenburg, on trouve souvent dans vos œuvres un intérêt pour des mouvements de tissu en tant que tel.
Oui, c'est vrai. Pas seulement le mouvement des corps m'intéresse, mais aussi le mouvement des plis. Mais parce qu'il n'y a pas de vent dans les salles d'expo, souvent les plis figent, évidemment, et ça devient un tableau. Mais pas seulement un tableau, les plis et ces installations de rideaux, je fais sans, évidemment, tout d'abord un espace ou un nouveau monde que j'ai créé, où il y a certaines différents mouvements possibles, et, oui, un sorte de miroir entre les mouvements des plis et les mouvements des spectatrices et spectateurs, mais aussi des performeurs.
Dans un film que vous avez réalisé et qu'on avait vu au Palais de Tokyo en 2020, dans votre exposition, il y a d'ailleurs toute une séquence où on a uniquement une succession de levées de rideaux, mais on a plusieurs levées de rideaux. Ça n'est pas un seul. Et vous avez aussi réalisé des films ou des installations où on n'a que des rideaux. Est-ce que la question de leur statisme est importante pour vous? Est-ce que l'interaction avec les spectateurs et les spectatrices qui les ouvrent quand ils ne les voient pas en film a un intérêt?
Mais le rideau, comme on le connaît dans le théâtre, est évidemment la frontière entre les spectatrices, spectateurs et ce qui est représenté. Et moi, je trouve ça hyper intéressant d'essayer de diluer cette frontière et que les spectateurs peuvent aussi devenir des actrices, acteurs. Et du coup, évidemment, il y a aussi, parce qu'on parle du mouvement, une autre qualité de mouvement, ou c'est ce que j'espère, qu'il y a une autre conscience de mouvement dans les espaces et aussi le fait qu'on ne sait jamais qui regarde qui et on ne sait plus qui est sur la scène et qui est sur l'autre côté. Et évidemment, après tout, aussi le tissu, parce que ça camoufle si bien les espaces. Et aussi, ça fait quelque chose avec le son, avec le son des pas et avec le son... Oui, en fait, c'est une sorte d'englober les corps, pas seulement avec des vêtements, qui font aussi des plis, mais aussi avec des plis et des tissus à l'extérieur.
Marcella Lista, cette question du tissu, du pli, dans l'histoire des avant-gardes du XXe siècle, elle est aussi importante. Je pense notamment aux costumes qui sont créés pour des pièces dansées ou...
Alors tout à fait, il y a un renouveau du costume qui va rechercher une certaine plasticité et là à nouveau une certaine abstraction, c'est-à-dire que le corps n'est pas présent, je dirais, pour une présence naturaliste ou réaliste, mais plutôt va devenir une figure, comme dans un tableau.
Cécile Colonna, dans les conventions qu'utilisent les peintres de vases grecs ou d'autres corpus de l'Antiquité, cette question de la présence naturelle des corps est un élément important. Où j'ai parlé tout à l'heure des plis qu'on voyait sur cette image, mais on voit aussi, par exemple, une des ménades, on voit ses seins à travers un tissu, manifestement. La suggestion du mouvement, elle repose par une volonté de représentation naturaliste.
Oui, en tout cas, si on reste sur la période à laquelle cette coupe a été créée, il y a véritablement de la part des peintres une recherche de représenter de manière plus naturaliste les corps par rapport à la technique précédente qui était à figure noire et beaucoup plus rigide. Et là, les nouvelles possibilités de la peinture leur font explorer toutes sortes de positions des corps et aussi de ce lien avec les drapés puisque tous les personnages portent différents types de tuniques. Et c'est vrai surtout pour les figures féminines puisqu'elles sont généralement vêtues alors que les hommes sont plus souvent nus. Et ici, les ménades, on voit bien il y a tout un jeu sur la retranscription des différentes matières des tuniques entre des tissus très fins qui laissent percevoir notamment les seins des ménades ici et donc qui accentuent sur cet aspect érotique aussi lié à leur danse et les plis plus lourds des draps de laine des autres parties des tuniques.
Qu'est-ce qu'elles tiennent dans leurs mains, les ménades?
Alors, elles tiennent à la fois des serpents, puisque comme on l'a dit, effectivement, le Dionysos est toujours près de la nature. Elles tiennent un thyrse, qui est un grand bâton avec un bouquet de lierre au bout. Et le thyrse, c'est l'attribut du dieu Dionysos et de ses suivants.
Oula von Brandenburg, dans ce type d'image, il y a la présence du son et du mouvement, ou est-ce que vous le voyez comme une image très statique ?
Mais ça fait tellement envie de vouloir savoir comment ils ont vraiment bougé. Et c'est pour ça aussi, j'imagine que Diaghilev et Nijinsky et plein d'autres, ça les inspirait beaucoup pour faire bouger cette image et de sortir de cette statique, mais en même temps aussi de révolutionner quand même la danse classique et de sortir de cette rigidité, parce que ces images-là, quand même, ils parlent de quelque chose beaucoup moins rigide qu'on le connaît du ballet classique.
Et vous regardez ce type d'image, ça nourrit votre travail ?
Oui, absolument. Oui, complètement.
Dans une de vos expositions, et en fait dans plusieurs expositions, si j'ai bien compris, vous aviez montré d'ailleurs un livre qui est un traité de Oscar Bille qui s'appelle Der Tanz, la danse, qui est un gros livre avec beaucoup, beaucoup d'images. Pour quelle raison vous montrez ce livre en tant que tel ?
C'était pour une exposition où j'ai montré le film qui s'appelle Feste Ehe de Flüssiger Wind. C'était un film où on a fait une chorégraphie avec Nina Schlageter, qui est une spécialiste de Rudolf Laban. Et du coup, j'aime beaucoup d'enrichir les expositions avec toutes sortes de matériaux et aussi assez associatifs et éclectiques sur des tables pour montrer aussi le monde d'où ça vient. Et évidemment, l'histoire de la danse, et Oscar Bille, c'était un des premiers qui a fait une sorte de collection historique, qu'est-ce qui existait déjà comme danse, comme source. Moi, je me sens beaucoup nourrie par le passé et comme, oui, qu'on a tous un héritage évidemment de porter. Et on fait quelque chose de nouveau avec ça. Et pour les plis aussi, je voulais dire Louise Faller. Il faut juste la nommer parce que c'est quand même la reine du tissu qui a su faire bouger énormément des masses et des kilos de tissu. Elle a dû être très, très forte dans l'air. Et c'était aussi cette idée du tissu qui montre si bien, oui, la vivacité du mouvement.
Le livre dont on parle est un livre de 1906, donc qui correspond vraiment à ce moment d'intense relation entre les chorégraphes et les artistes visuels. Marcella Lista, c'est une histoire que vous connaissez bien, je crois.
Oui, mais c'est vrai que là, on conjugue plusieurs temps, en fait, hein, et plusieurs médias, si j'ose dire, hein, puisqu'on parle effectivement de ce rapport assez dialectique entre passé et avenir, qui caractérise certaines postures d'avant-garde, hein, qui est de dire l'avenir passe par un retour à des sources très, très lointaines, finalement, que l'Occident a oubliées. Et il y a aussi une forme de syncrétisme. Évidemment, les vases grecs ne sont pas la seule influence loin de là. Et d'autre part, il y a effectivement ce débat que vient d'évoquer Ulla von Brandenburg entre, d'un côté, libérer le corps, donc le donner à voir, le montrer dans son état naturel, sans corset, sans toutes les contraintes imposées par le costume du ballet, et de l'autre, effectivement, le travail de quelqu'un comme Loy Fuller, cette immense danseuse américaine, qui va quelque part explorer la possibilité inverse, qui est au contraire presque de dissimuler le corps pour en faire le simple support de compositions abstraites réalisées par ces tissus très légers, tournoyants, mais qui représentaient effectivement énormément de mètres carrés qu'elle avait à faire virevolter dans les airs. Et pour elle, c'était vraiment une pensée abstraite. Elle a essayé de déposer un brevet pour cette technique, ce qui lui a été refusé, puisqu'on ne savait pas comment identifier ce travail. Et c'est en fait le public qui a commencé à voir, à interpréter des formes naturelles, comme papillons, fleurs, etc., dans ses créations, alors que dans son esprit à elle, c'était vraiment un travail abstrait.
Oui, aujourd'hui, on connaît souvent Loy Fuller soit à travers des images statiques, mais il se trouve quand même que dans beaucoup d'expositions, on veut nous faire croire qu'on a des films qui permettraient de comprendre ce qu'il en est du travail de Loy Fuller, et en fait, on voit des mauvaises interprétations filmées.
Des imitatrices.
Je ne sais pas si c'est des mauvaises, mais c'est assez frappant que ça ne semble pas d'une qualité extrême en général.
Il y a de tout. Hein. Il y a aussi des choses qui ont été faites un peu plus tard et qui se reposent plutôt sur une transmission orale du travail et qui, dans les années 30, documente notamment la danse d'Ulysse. Mais là encore, j'insiste sur cette rivalité entre danse et cinéma. C'est-à-dire qu'elle-même a refusé d'être filmée. C'était tout à fait intéressant.
Mais en revanche, dans le travail même d'un certain nombre d'artistes, à ce moment-là, il y a la représentation du mouvement comme un but en soi. On pense évidemment au futurisme pour l'Italie au début du XXe siècle, mais aussi, par exemple, au travail de Robert et Sonia Delaunay, et à des images qui sont presque des images de procession. Je pense au tableau de Sonia Delaunay qui représente le balbulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Marcella Lista?
Alors là encore, c'est très frappant cette convergence entre le format de la frise, donc un format horizontal très allongé, tout à fait inhabituel pour le tableau, et la représentation du mouvement qui se résume finalement à un rythme de couleurs, hein, qui est évidemment l'objectif du travail de Sonia Delaunay dans le balbulier. C'était effectivement à nouveau de chercher un point d'appui dans un art du temps pour réformer en profondeur le langage de la peinture. Et aussi bien la danse que la musique ont joué le rôle d'analogone de la peinture au moment, dans les années, début des années 1910, juste avant la Première Guerre mondiale en Europe, de chercher ces modèles autres pour faire évoluer la peinture et en faire un art du mouvement, un art du temps.
Mais parfois, chez certains artistes, ça va dans un sens inverse de celui du regard sur le passé. Je pense par exemple au futuriste italien, qui proclame de façon très claire, Marinetti et autres, le fait que la représentation de la vitesse doit abolir l'art antique. Comment est-ce que ça fonctionne?
Alors là, il y a effectivement tout un autre pan de ce foyer d'idées extrêmement riche qui est celui de cette période-là. L'intérêt pour ce que la machine et l'électricité produisent, de vitesse qui n'existait pas auparavant, donc une expérience inédite de la célérité, et donc d'une sorte de sentiment d'abolition du temps. Et de l'autre, quelque chose qui est aussi intéressant, qui sont les découvertes d'Albert Einstein, qui, avec la découverte de l'atome et du vide qui est contenu dans l'atome, c'est l'idée que le monde est vibration. Et cette idée-là, avec effectivement le rôle des électrons comme agents de ce continuum vibratoire, va inspirer beaucoup d'artistes et va être un des supports, notamment chez Kandinsky, du saut vers l'abstraction. C'est-à-dire qu'il dit la matière n'existe pas, la science prouve aujourd'hui que la matière n'existe pas. Et là encore, on trouve cette idée d'une déstabilisation de la matière, qui est aussi ce que cherchent les futuristes.
Alors, effectivement, en étant dans un rapport au passé qui est un rapport assez négatif, ou l'avant de Brandenburg, j'ai le sentiment, en voyant votre travail, que vous êtes plus intéressé par une forme de nouvel archaïsme qui voit dans les mouvements collectifs, des mouvements d'ensemble, des rondes, des danses collectives, chorégraphiées, une forme, je ne sais pas très bien comment la nommer, mais de proposition pour le monde contemporain, qui fait retour à une forme de passé archaïque très ancien.
Oui, mais en même temps, c'est quand même très tourné vers le futur. C'est pas seulement le passé. On peut dire aussi que c'est des propositions futuristes, parce que ça nous manque aujourd'hui de danser ensemble, d'avoir des rituels. On a des rituels, évidemment, mais peut-être on a trop peu, ou ils sont trop liés à certaines religions ou certaines choses, et de libérer ça et de faire des choses ensemble et de bouger ensemble. Et c'est la communauté, évidemment, qui m'intéresse beaucoup. Et évidemment, tout de suite, on est dans les années 68, où les gens, ils ont déjà essayé de faire des communautés et de danser ensemble, et ça a échoué. Mais moi, je tiens à dire que aussi, évidemment, le mouvement et la danse, c'est un acte très fort de libération, et surtout aussi de transgression. Et on peut tous devenir quelqu'un d'autre, où une communauté peut se transformer. Et ce moment-là de transgression, aussi dans les expositions, quand on pénètre les installations, m'intéresse beaucoup.
Et dans vos expositions, souvent, on a d'un côté des installations qui sont figées, enfin, ou statiques, qui sont parfois animées par des performeurs de façon plus ou moins régulière, et puis des films qui montrent les activations de ces mêmes éléments. Pour vous, le rôle du spectateur ou de spectatrice est quoi? C'est de voir ces installations comme des tableaux en trois dimensions, ou bien d'imaginer leur propre usage?
Dans les meilleurs des cas, le spectateur, spectatrice se sentent faire partie de cette œuvre. Et c'est, je veux dire, oui, c'est une installation où j'aimerais beaucoup. Il n'y a plus la différence vraiment entre les actrices et les spectatrices. Ça, pour moi, ça serait l'idéal, où ça se marie. Et évidemment aussi cette distance laquelle on a appris entre nous et l'art est abolie.
Dans la Grèce antique, Cécile Colonna, cette dimension communautaire est importante et elle passe par des images, effectivement.
Cette dimension est extrêmement importante, puisqu'effectivement, les danses dans la Grèce antique sont omniprésentes dans le cadre privé ou dans les cadres de la vie de la cité. Mais ce sont toujours des danses en collective, en chœur. Et c'est une dimension que l'on retrouve aussi beaucoup dans les images, où la plupart de ces danses sont effectivement dansées ensemble. On les retrouve aussi bien dans le cadre donc des différents rituels, où la danse elle-même n'est pas que un moment qui mène vers le sacrifice, vers le moment, mais c'est en soi un moment de communion avec le dieu. Et c'est également le cas dans la danse aussi dans le cadre du banquet, puisqu'on a un peu peut-être tendance à oublier que dans la Grèce antique, ces aspects religieux imprègnent vraiment tous les aspects de la vie des citoyens. Et donc ces danses liées à la consommation du vin sont véritablement faites en l'honneur de Dionysos, mais aussi en présence de Dionysos qui est ainsi honoré.
Je vous propose qu'on entende maintenant une séquence musical qui est un chant qui accompagne la séquence d'un des films d'Olaf von Brandenburg, Le milieu est bleu, et qui est un moment de rituel collectif sur une scène. Il y a plusieurs séquences dans ce film qui se passent dans divers lieux, une salle de préparation, une scène de théâtre, et en l'occurrence c'est la scène du théâtre du peuple de Bussan dans les Vosges qui a son importance, et puis ensuite dans la forêt. C'est une musique qui accompagne une scène dans laquelle on a une ronde chorégraphiée de beaucoup de personnages autour d'une femme qui est vêtue en jaune et qui est placée dans une sorte de cage de bois et à laquelle on dit notamment « tu dois perdre ton merveilleux équilibre ». Donc il est bien question de mouvement et de statisme.
France Culture, l'art est le mouvement, une collection d'Éric de Chassay.
Olaf von Brandenburg, c'est important pour vous de représenter la danse, de représenter ces moments avec des corps, plutôt que de passer par l'abstraction, ou pour vous, on peut passer d'un langage à un autre, au début du XXIe siècle, c'est permis?
Oui, c'est permis. C'est absolument permis et... Pour moi, la danse, en fait, je suis vraiment pas une spécialiste de danse, je dois dire. Je m'intéresse beaucoup pour le mouvement et vraiment pour toutes sortes de mouvements. Et je trouve aussi, quelqu'un a déjà dit, on est tous artistes. On peut aussi dire, on est tous danseurs, danseuses, parce qu'on bouge.
Moi, pas du tout, hein.
Mais vous bougez aussi. Et il y a aussi une forme de danse dans ces mouvements. Et juste pour dire que c'est pas, oui, c'est aussi les mouvements ou la danse quotidien quand on est dans un café, on regarde les gens passer et chacun a un mouvement hyper spécifique qui raconte plein des choses sur cette personne. Et c'est cet mouvement aussi, du quotidien bien qui m'intéresse beaucoup. Et quand je travaille ensemble avec des performeuses, je suis pas spécialiste. Du coup, c'est aussi un travail en communauté et tous les gens proposent des mouvements. C'est aussi Pina Bausch qui a travaillé comme ça, des chorégraphies. Chacun propose une phrase ou une, oui, de danse et on la répète comme le jeu. Je fais ma valise et je mets ça et ça et ça dedans. C'est un super jeu pour créer une chorégraphie simple, mais évident ensemble, et chacun a nourri cette chorégraphie avec son mouvement.
Cette manière de penser le rapport entre mouvement figuré dans des corps, et y compris ordinaire et abstraction, on la trouve notamment au cœur de la pensée et de l'œuvre de Vassili Kandinsky. Et je vous propose qu'on introduise dans la discussion une autre image qui a été proposée par Marcella Lista et qui est le tableau de Vassili Kandinsky, Improvisation 3, qui date de 1909. C'est un tableau qu'on peut voir actuellement dans les collections permanentes du Musée national d'art moderne, au cinquième étage du Centre Pompidou à Paris. C'est une huile sur toile qui est de dimension conventionnelle, traditionnelle, un tableau de moyenne dimension, 94 par 130 cm. C'est quand même pas mal pour un tableau qui porte un titre d'improvisation. C'est un tableau qui semble peu réaliste parce que ses couleurs semblent inventées plus qu'observées, tandis que les formes y sont pratiquement sans détail. On a surtout des contours et des aplats colorés. Mais on y reconnaît assez bien, devant une grande maison sans toit, qui laisse penser qu'il s'agit d'une architecture qu'on trouve plutôt sur la rive sud de la Méditerranée, où Kandinsky a d'ailleurs fait un voyage, un cavalier qui est vêtu d'un grand manteau, qui fait mouvement vers un pont sur sa gauche, à notre droite, tandis que son cheval se cabre assez violemment. Il y a également des éléments de végétation, et sur la gauche, deux personnages, un adulte et un enfant sans doute. Et la forte dynamique du cavalier, qui monte de la gauche vers la droite, est redoublée sur toute la composition par des grands coups de pinceau colorés qui vont dans la même direction et qui impulsent à l'ensemble du tableau un mouvement. Marcella Lista, cette question de la suggestion du mouvement était-elle importante pour Kandinsky? Pourquoi elle revêt cette importance?
Alors c'est une grande question. La particularité en effet de ce tableau, qui est extrêmement riche et difficile à décrire en effet, c'est le contraste entre le mouvement du geste pictural, qui est extrêmement animé, hein, très vibrant, et d'une certaine façon le statisme de ce cavalier qui a l'air d'être une image un peu figée dans son mouvement, arrêtée, suspendue peut-être. Et en effet, on voit se rencontrer dans cette œuvre, de mon point de vue, deux réalités culturelles qu'il va rassembler, disons, a posteriori. Tout d'abord le souvenir de son voyage en Tunisie de 1905, et puis cette figure de Saint Georges qui a traversé toute son œuvre, hein, qui est le saint protecteur de Murnau en Bavière, où il a résidé, et qui est aussi un saint assez archaïque, hein, qui remonte à d'autres formes de religion pré-chrétienne, hein, dont il transpose aussi des aspects, des caractéristiques, et on le voit effectivement procéder à ce syncrétisme culturel dans cette œuvre, en conjuguant plusieurs temps, plusieurs rythmes, plusieurs intensités de mouvement.
Effectivement, on a le sentiment d'une figure relativement figée, enfin, ce cheval dominante bleu-verte qui se cabre. On sait bien intellectuellement que c'est un mouvement très violent, mais ce qu'on voit, c'est un mouvement pratiquement figé.
Oui, tout à fait. Il y a une sorte de balance, d'équilibre qui se crée, puisque ce cheval cabré est à l'intersection de plusieurs lignes, hein, des lignes. Une ligne verticale très nette, qui est celle de l'édifice, qui est à l'arrière-plan, et puis une ligne ascendante, qui évoque l'idée que peut-être cette ascension, hein, et cette cabrure du cheval est plutôt quelque chose comme une élévation, c'est-à-dire non pas un mouvement violent qui appartiendrait à une situation concrète, terrestre, mais plutôt l'idée d'une ascension.
Bizarrement, enfin dans le contexte de notre discussion, ça me fait penser à cette question du rapport entre hiératisme et mouvement dans la peinture antique, et notamment à cette figure de la tête renversée de Apollon dont on a parlé tout à l'heure. Cécile Colonna, vous qui êtes spécialiste de l'Antiquité, quand vous voyez un tableau de ce type, vous l'interprétez comment ?
Évidemment, on cherche toujours à faire des parallèles ou à lire à partir de ce genre de tableau et notamment de tout ce qu'on sait des intentions de l'artiste au moment de créer ce tableau, de faire des parallèles avec les œuvres qui nous sont parvenues de l'Antiquité où la situation est évidemment très différente puisqu'on n'a pas souvent même on ne connaît pas le nom de l'artiste et on a en tout cas pas du tout de texte qui explicite pour nous ce que les artistes de l'Antiquité ont voulu faire, mais clairement on retrouve tout de même à la fois dans la peinture sur vase, mais aussi dans la sculpture, des aspirations à la retranscription du mouvement qui peuvent être tout à fait, sinon similaires, au moins comparables.
Martina Lista, c'est important que le cheval soit bleu?
Alors oui, tout d'abord, pardon pour réagir à ce que vient de dire Cécile Colonna, ce qui m'intéresse, c'est cette parenté qui existe entre l'idée de décrire un mouvement réel, mais aussi de se rapporter à un monde non réel, c'est-à-dire un monde de vibrations spirituelles, un monde sacré, qui est aussi propre au travail de Kandinsky, dès lors que l'on voit qu'on quitte la gravité terrestre, en fait, dans la partie droite du tableau. Il y a toujours ce balancement entre le terrestre et le céleste. Et le cavalier bleu, bien entendu, c'est le titre de l'association d'artistes qu'il va créer à Munich en 1911 et qui va donner lieu à cet almanach très célèbre qui paraît en 1912, où il tient justement à opérer une sorte de synthèse des arts, c'est-à-dire à montrer que les questions que se posent les peintres de son époque sont aussi celles que se posent les compositeurs ou encore les chorégraphes ou encore les poètes et les écrivains.
Vous avez le sentiment, là encore, Olaf von Brandenburg, que ces questions sont d'actualité, qu'elles existent pour vous aussi, ou bien l'œuvre de Kandinsky appartient à un passé révolu, délibérément optimiste, universaliste, etc.
Oui, pour moi, il y a aussi un truc de vouloir effacer des frontières, de ce que j'ai parler avant pour les spectatrices, spectateurs dans les espaces. Et là, c'est une traversée dans le temps et dans les couleurs, dans l'espace, mais aussi la musique, parce qu'avec Kandinsky, quand même, il y a cette notion qu'il était synesthète et il a traduit le son dans des couleurs. Et de, oui, pour moi, c'est un cavalier qui, il y a plus les frontières entre temps, espace, couleurs, notions, aussi, comme vous le dites, spiritualité, et d'aller dans un autre monde. En fait, c'est aussi une utopie.
Mais là, il y a encore des frontières à l'intérieur de l'image, Marcella Lista.
Alors, il y a un ciel qui est très étonnant. C'est un ciel rouge qui est percé d'orifices circulaires, comme si on était sous un dôme. Donc là encore, on est un peu dans cette dialectique entre le terrestre et le céleste, il me semble, dans cette œuvre. Et il y a le titre aussi qui est intéressant. Improvisation, c'est une série d'œuvres qu'il réalise juste avant de passer, disons, à l'art totalement non figuratif, ou du moins qui se présente comme tel. Et c'est un terme, évidemment, qui est aussi utilisé en musique et en danse. Et ce qu'il en dit, c'est très intéressant, parce que ça concerne le temps aussi. Je vais juste lire une petite citation du spirituel dans l'art, c'est dans la page conclusive, où il parle de ces trois formes de tableaux qu'il expérimente à cette période, donc entre 1910 et 1911. Un, les impressions, donc la série des impressions, impressions directes de la nature extérieure exprimées sous une forme graphique et picturale. J'appelle ces images impressions, donc dans la tradition de l'impressionnisme, de l'immédiateté. Deux, expressions particulièrement inconscientes, pour une grande part issues soudainement des processus de caractère intérieur, donc impression de la nature intérieure. J'appelle ce genre improvisation. Et enfin, le troisième terme, c'est le terme de composition. Ce qui est intéressant, c'est que pour lui, l'improvisation, contrairement à ce que le nom indique, suppose qu'on ait intériorisé un délai temporel entre la perception de ce que l'on voit et puis une sorte de métabolisation intérieure du souvenir qui va faire que l'image va ressurgir à travers un filtre d'émotion, de subjectivité et une réélaboration imaginaire. Et c'est exactement cela que l'on regarde, c'est cette temporalité composite entre le moment de l'expérience à Tunis, le moment où il regarde ses cavaliers de ses représentations de Saint-Georges en Bavière, qui ici se transforme presque en cavalier oriental avec cette cape orange, et tout cela va être une constellation de sensations intérieures.
Et effectivement, on a le sentiment que c'est ce qui permet le passage à l'abstraction, c'est-à-dire le fait que le mouvement ne soit plus pris dans des objets, mais soit dans la peinture elle-même.
Exactement, oui. C'est l'idée de que la peinture devienne elle-même un monde, une sorte d'analogie du monde réel, mais dans ses propres termes.
Et Kandinsky lui-même et un certain nombre de ses camarades ou amis est passé aussi dans le monde de la production de spectacles tridimensionnels ou d'environnement.
Alors tout à fait, il a voulu tenter lui-même cette synthèse des arts qu'il appelle aussi art monumental, en référence au Gesamtkunstwerk de Wagner, c'est-à-dire à l'idée d'union des arts sur la scène, et qui a aussi cette dimension de se référer à des rituels, au mystère de l'Antiquité, comme il se fantasmait à cette époque, cette idée d'une synthèse régénératrice qui renouvelle un cycle dans les formats scéniques. Et donc, il a, à partir de 1908, commencé à travailler à des pièces synesthésiques où il souhaitait vraiment dépouiller la représentation scénique du naturalisme, du réalisme, pour aller vers l'usage de matériaux purs tels que la couleur, la ligne, le mot ou le son pur ou le mouvement pur. Donc, à propos du mouvement, il rencontre en 1909 Alexandre Sakharov, qui est russe comme lui et qui est aussi à Munich et qui s'intéresse aussi à l'Antiquité et qui développe cette idée de pantomime muette, comme Isadora Duncan qui dansait aussi sans musique. C'est déjà un premier pas vers l'abstraction, il n'y a pas de rapport d'illustration, de redoublement, je dirais, du geste par la musique et réciproquement. Et donc c'est l'idée du mouvement, d'un mouvement mystérieux qui n'a pas de signification explicite, qui garde une forme d'hermétisme et qui donc va se rattacher peut-être à une expérience magique.
Et il en fait des expériences concrètes ?
Alors, il n'est pas vraiment parvenu avant les années 20, dans le cadre du Bauhaus, à concrétiser ce travail, mais on en garde de magnifiques partitions, dans lesquelles chaque ligne de la partition correspond à une forme d'art. Chaque voix est la couleur, le mouvement, le mot, etc. Et puis, on en garde des descriptions théoriques très importantes, où il parle de consonance et de dissonance des arts. C'est-à-dire que les arts ne doivent pas forcément aller vers l'harmonie, mais peuvent aussi jouer de disjonctions, de chemins contraires qui s'opposent.
Alors, effectivement, dans la suite du travail de Kandinsky, on a des projets dans les années, autour des années 1910, et puis on a des réalisations plus tard, dans les années 1920.
Tout à fait. La guerre interrompt quand même les utopies, disons, de ces recherches très très expérimentales, très radicales autour de l'abstraction scénique. Et dans les années 20, dans le cadre du Bauhaus, qui est aussi un lieu qui est repensé, enfin, qui pense une synthèse des arts, en tout cas une plateforme commune à tous les arts, plusieurs artistes au Bauhaus vont travailler sur la scène. Paul Klee développe un théâtre de marionnettes, même si c'est un théâtre en grande partie privé. Oscar Schlemmer développe des danses abstraites au Bauhaus. Et Kandinsky, lui, va se livrer à, je dirais, un aspect de sa recherche qui est assez réducteur par rapport à l'ouverture qu'il avait au début des années 10 et qui va être de transposer les tableaux d'une exposition de Moussorgsky à travers des scénettes qui composent des éléments de décor, qui sont des éléments, disons, de peinture scénique, et puis des costumes et un travail de pantomime qui va intégrer les danseurs à l'intérieur d'une grande composition mouvante.
Dans votre propre travail, Ulla von Brandenburg, comment se passe ce va-et-vient entre la partie statique, la production d'images, je pense par exemple aux aquarelles, et les productions qui ont une dimension tridimensionnelle, scénique, etc.
C'est l'occasion qui fait aussi la chose, parce que tous mes projets sont très site spécifiques. Ça veut dire, quand je suis invitée pour des expositions, c'est l'espace d'abord qui dicte aussi des choses qui sont possibles ou pas possibles. Et les aquarelles, ça peut aussi être dans une exposition, mais c'est autre chose. Les aquarelles, c'est plutôt comme le livre de Oscar B, ça veut dire que je peins beaucoup des images du passé ou des sources d'inspiration et qui sont importantes pour créer un univers. Mais là, par exemple, pour le Crystal Palace à Madrid, c'est cet énorme...
Qui est un projet sur lequel vous êtes en train de travailler.
Exact, et cette énorme serre de verre, du coup, évidemment, il faut inventer quelque chose pour cet espace. Et là, je vais faire quelque chose aussi, je veux dire, parce qu'on parle de Kandinsky et les couleurs, je vais créer 5 espaces qui sont que une couleur, ça veut dire on peut rentrer dans un cercle orange, par exemple, et c'est aussi sur cette question des vibrations, des couleurs, et qu'est-ce que ça fait avec nous. Et évidemment, on se sent différent dans un cercle orange que dans un triangle violet, et pour moi, c'est aussi une expérimentation avec le public, de traverser ces espaces. Il y a aussi des objets, il y a aussi une performance, parce que pour moi, c'est hyper important maintenant de inaugurer les expositions avec une performance, quelque chose de vivant. Comme ça, il y a, oui, c'est une initiation de l'exposition ou une sorte de proposition de l'usure, comment on peut traverser ces expositions.
Et quand vous pensez, comme dans ce cas-là, à une exposition, vous prenez en compte les mouvements qui vont se faire dedans par les gens qui vont la visiter? Ou pour vous, la question, c'est celle de ce cercle ou de ce triangle, enfin, je veux dire, de ces environnements en tant que tels, qui passent plutôt par des opérations mentales, du coup, ou...
C'est les deux. C'est cette expérimentation dans les espaces mêmes, mais après, évidemment, c'est comment les gens vont bouger dans cet espace et quelles perspectives aussi on peut avoir. Il y a aussi des ouvertures et des grands objets blancs qui ramènent aussi à une réalité des objets. Parce que aussi, beaucoup de notre mouvement, c'est quand même aussi face à des objets, face à des tasses, des tables, des métros, je veux dire, c'est que des objets qui nous forcent à bouger dans une certaine manière ou pas.
Mais à partir de ça, on peut penser une forme d'utopie, de monde vers lequel on irait. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez plus intéressé par la projection vers le futur. Et c'était une chose effectivement importante pour Kandinsky. Je ne sais pas à quel point c'était une chose importante pour les Grecs de l'Antiquité, mais...
Oui, je veux dire, dans l'art quand même, on a cette immense chance de proposer d'autres mondes. Et parce qu'on est dans un monde précis, un monde de travail, un monde qui nous propose peu de choses. Et c'est dans l'art où on peut devenir quelqu'un d'autre, où on a... Une proposition pour un meilleur futur, un autre monde. Et moi, je me souhaite la possibilité d'un autre monde ou d'une partie, d'une petite autre monde pour les spectateurs, spectatrices, et une sorte de liberté aussi, et une liberté.
Merci beaucoup, Ulla von Brandenburg. Ça me semble être une très bonne conclusion à cette discussion de terminer. Cette discussion sur le passage du mouvement au rituel, à la danse, etc., par cette ouverture sur un autre monde possible, parce que je pense quand même que c'est effectivement un des points qui existent, y compris dans une coupe à boire pendant l'Antiquité. Merci beaucoup à mes trois invités pour cette émission. Cécile Colonna, vous continuez activement à mettre en ligne le répertoire des ventes d'antiques au XIXe siècle à l'Institut National d'Histoire de l'Art et vous travaillez actuellement avec une équipe de recherche à l'étude et à la valorisation de la collection de vases grecs du musée Antoine Vivenay à Compiègne dans le cadre de la rénovation de leur salle d'exposition avec une ouverture prévue en 2024. Ulla von Brandenburg, vous préparez actuellement plusieurs projets. Vous avez évoqué celui du Palais de Cristal qui dépend du Reina Sofia à Madrid, qui est dans le grand jardin qui se trouve à côté du Reina Sofia. Et vous préparez aussi votre participation à la triennale de la National Gallery of Victoria à Melbourne, qui ouvrira en décembre. L'exposition à Madrid, c'est au mois de novembre. Et Marcella Lista, parmi diverses choses sur lesquelles vous travaillez ou avez travaillé récemment, je retiendrai particulièrement l'apparition d'un livre sur Éric Baudelaire aux éditions Paraguay, avec des présentations de l'ouvrage à différents endroits. C'était L'art et mouvement par Éric de Chasset. Je veux remercier toute l'équipe qui a préparé cette émission et m'a aidé, à l'Institut National d'Histoire de l'Art, Emeline Mouasset et Lucie Grandjean, qui est chargée du développement culturel, qui m'ont assisté dans la préparation de cette série d'émissions, à France Culture, Sandrine Chaperon et Caroline Boulet-Gauthy à la préparation de l'émission, Tar Bouklifa à la prise de son, Clotilde Pivin à la réalisation. La prochaine émission de cette série, L'art et le mouvement, aura pour thème Costumer le mouvement. J'y accueillerai une historienne de l'art, Oriane Beaufils, qui est spécialiste de la Renaissance, et un historien de l'art et anthropologue, Steve Bourget, qui a notamment été le commissaire d'une exposition sur les Black Indians de la Nouvelle-Orléans. Je vous rappelle que la collection s'écoute et se podcast sur franceculture.fr et l'application Radio France.